C'est parti pour deux heures de détente et de rire avec Laurent Ruquier. Bonjour Laurent.
On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, Christine Bravo, oh, Isabelle Vautreau, Jérémy Michalak, hey, Philippe Alfonsi, Titoff et Fabrice Éboué. Oh, j'ai eu une drôle de vision là à l'instant, Isabelle.
Ah, ça y est, je pense que tu vas parler de mes cheveux, non ?
Je me suis dit, ah, mais ça fait, je vois, 15 ans qu'elle est là avec moi autour des...
Ça fait pas 15 ans.
On a beaucoup d'auditeurs, de plus en plus nombreux, qui nous... Tant mieux, merci à eux. Mais je me dis, mais c'est pas possible, ça fait... Mais si,
mais
depuis 1990, ça fait 18 ans.
Non, ça fait plus, hein. Moi, je pense que ça fait presque 19 maintenant.
C'est pas possible. Ouais. Ça me fait peur. Je me dis, alors peut-être que dans 20 ans, on sera là comme...
Parce ah
que
non, j'ai
vu,
ah non.
J'ai vu les grosses têtes sur Paris Première. Et là j'ai eu une vision,
ah oui,
je me suis dit ah, on va être là tous les deux, parce que je vous ai vu vieille d'un coup.
Ah oui.
Je n'arrive pas à savoir si c'est la réalité ou si c'est dans quelques années.
C'est dans quelques années.
Ah bon, alors vous me rassurez. D'un autre côté, Christine Bravo, elle rajeunit, il faut dire les choses
comme
elles
sont. Ah bah oui, c'est vrai. C'est prodigieux.
C'est jolie cette petite tenue encore aujourd'hui, hein.
Ah oui, encore,
oui,
oui,
elle nous régale, hein. Ça, c'est un terme, on peut employer le terme, elle nous régale.
Ah non, voilà. C'est la collection.
Tous les jours une petite tenue.
Collection hiver de chez Pimki là. Elle s'habille chez les 14-16 ans, elle fait comme moi maintenant, mais moi c'est pour d'autres raisons.
Mais vous piquez les robes de votre fille, qu'est-ce qui s'est passé?
Ouais. Non, mais écoutez.
Commence voilà. Par lui piquer les robes et puis après.
Non, mais même sa fille, elle mettrait pas ça, ça fait trop jeune pour sa fille. Hein.
Sa mère lui interdirait. Bonjour monsieur Ruquier. Ah, une petite blague de naufragé sur une île déserte, puisque Fabrice Éboué semble aimer ça. Alors c'est vrai qu'il y a toute une série de blagues comme ça, ah, sur les naufragés. Ouais, ouais. Alors après le naufrage de leur bateau, un couple de Belges et un Français sont sur une petite île déserte.
C'est au Cap d'Agde, ça, non ? Un truc de Belge avec un Français.
C'est pas au Cap d'Agde, c'est vraiment une île déserte. Il y a un très haut palmier, quand même, sur l'île. Et au bout de quelques jours, le Français étant le seul à ne pouvoir satisfaire ses désirs sexuels, puisque les Belges sont en couple, et il se doute que le Belge ne va pas vouloir partager sa moitié avec lui. Il imagine un plan. Il dit aux Belges, si nous restons ici sans rien faire, aucun bateau ne viendra nous secourir. Je vais donc monter au sommet de ce palmier et faire le guet. Dès qu'un bateau passera à l'horizon, je lui ferai des appels. Les deux Belges approuvent et le Français grimpe donc au sommet du palmier. Au bout de 5 minutes, il s'écrie « Ah, les deux saligots, vous croyez que je vous vois pas? N'en profitez pas pendant que je suis là-haut pour faire vos cochonneries !» Le Belge, qui n'avait rien fait, s'étonne. « Mais qu'est-ce qu'il raconte, ça, une fois, je comprends pas, on n'a rien fait. » 5 minutes plus tard, il recommence. « Eh, faut pas vous gêner, je vous vois de là-haut. Vous croyez que je m'amuse, moi, tout seul, là-haut ? » ?»« Mais enfin, que se passe-t-il ? » ?»« Ouais, je vous ai vu tous les deux. Vous baisez pendant que je fais le guet. Un peu de tenue, quand même. »« Je vous assure que nous n'avons rien fait. Hein. » 5 minutes plus tard. « Oh, ça suffit comme ça, je descends. Et vous, le Belge, au lieu de vous amuser, c'est vous qui allez faire le guet. » »« Mais y a pas de problème, hein, ça me dérange absolument pas d'aller faire le guet. » Le Belge monte donc au sommet du palmier à la place du Français, qui se précipite alors sur l'épouse du Belge, et ils se lancent tous les deux dans des rapports sexuels torrides. Le Belge les regarde et s'exclame alors, « Ah, mais il avait raison, hein, c'est vrai que vu d'ici, on croirait presque qu'ils sont en train de faire l'amour. Ça, non, elle est pas mal.
Ça, elle est bien,
on voyait arriver la chute.
Ça a l'air bien, les vacances de Gueuluc. Hein.
Il nous envoie des mails.
Ouais, c'est bien.
Je m'appelle Alexandre, j'ai 21 ans, je suis aux émissions depuis très longtemps. C'est la première fois que je vous écris. Merci beaucoup pour l'évasion que vous m'apportez chaque après-midi entre 16h et 18h.
Il est en tôle.
Non, il est pas en tôle. Mais il a fait un rêve érotique.
C'est le gay prisonnier.
Ah, Jérémy.
L'autre nuit, j'ai rêvé de Fabrice Éboué qui me baisait sauvagement. C'est quand même fou, ça. Alexandre. Et j'avais l'air d'aimer ça.
Et lui aussi.
Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est
bizarre.
C'est pas une maladie,
c'est
Fabrice.
C'est pas ça.
Il fait pas son petit rire. C'est bizarre.
Ça peut vous arriver aussi. Il y a pas que Juju et moi.
Bien sûr. Mais bon.
Il y a des gens.
Europe 1 va commencer à s'inquiéter. On a un public de plus en plus gay.
Tu m'étonnes.
Mais Christine, vous étiez là aussi, mais je me souviens plus de ce que vous faisiez. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Dans l'émission d'hier, Boubounet a parlé de tomber des os pour parler de la perte des os chez la femme enceinte. Je rappelle que Boubounet, c'est Fabrice Éboué. C'était juste pour rappeler aux auditeurs que Fabrice avait quand même rappelé que son papa était gynécologue. Boubounet senior, donc.
On attaque les parents maintenant.
La clientèle risque de prendre peur. Parce que franchement, voilà, vous employez des expressions que votre père n'utiliserait pas, Boubounet.
Oui, c'est une pierre des eaux, effectivement. Autant pour moi.
On dit pas de tomber des eaux.
La tombée des eaux.
Ça, c'est le syndrome de
ça fait une chanson d'Obispo un peu.
Si vous avez écouté l'émission d'hier, vous allez comprendre le mail qui vient. C'était juste pour dire à la bouboune, à Joujou et à Titoff que je suis roux, que j'en ai une petite, que je sens fort sous les bras et que je vous emmerde.
Traduction.
Faut expliquer. Ça devait être bien l'émission d'hier.
Donc Brice Hortefeux écoute l'émission, du coup. Ouais.
Parce qu'hier, on s'est moqué des rouquins, alors voilà.
Des roukmoutes.
Pas des roukmoutes, des rouquins.
Enfin, moqué, c'est Stevie qui disait que, en général.
Les rouquins étaient très virils. Bon, heureusement, nous avons deux auditeurs beaucoup plus sages qui patientent. Par exemple, Christiane et Yann. Christiane qui habite Paris. Bonjour, Christiane.
Bonjour. Que faites-vous? À tout le monde. Je suis retraitée.
Ça ne s'entend pas, Christiane. Voulez-vous que je vous dise?
Eh ben tant mieux.
Qu'est-ce que vous faisiez avant d'être à la retraite?
Eh ben j'étais dans la recherche médicale. Je m'occupais d'une banque technique d'ADN et de cellules.
Ah très bien. Et vous avez fini par trouver?
Ah ben non, mais moi je gérais les prélèvements, donc c'est pas moi qui ai trouvé. Ah,
vous faites des prélèvements d'ADN. J'en connais d'autres ici qui font ça.
Ah bon.
Yann habite la Basinière, pas la Gazinière, hein, parce que autrement sortez l'eau du four. C'est en l'Indre-et-Loire. Bonjour Yann.
Oui, bonjour. Bonjour à tous.
Que faites-vous, Yann, vous?
Moi, je suis dans le tourisme international.
C'est-à-dire, vous vendez des voyages?
Non, j'ai des chambres d'hôtes et je reçois des gens du monde entier.
Des chambres d'hôtes?
Au cœur du Val-de-Loire. C'est vous vous rappelez peut-être que je vous avais rencontré au théâtre de chez Bouvet-la-Dubé quand vous étiez venu à la journée du livre et du vin.
Ah, qui
faire
ça?
Votre spectacle dans le petit théâtre.
Ah, c'est à moi que vous parlez, là?
Oui, oui.
Ah oui, je me souviens bien.
Non, il y a quelques années, vous aviez fait l'émission dans le petit théâtre de Bouvet-la-Dubé.
Ah oui, exact, c'est vrai.
Et
on était venu faire
sympa,
une émission là-bas.
J'étais allé voir et vous m'aviez même signé un autographe.
Oh, bah c'est bien, Yann, alors.
C'était génial.
Donc vous plus, avez déjà votre cadeau, vous pouvez raccrocher.
Au revoir, Yann.
C'est là que je me suis aperçu qu'on avait la même taille. On a le même âge et la même taille, donc c'est déjà pas mal.
Vous et moi, vous avez 35 ans.
Tu veux le sodomiser tout de suite ou d'accord un peu, là?
Il y a zéro préliminaire, il y va direct, Yann.
Pardon, Christiane, on a une retraitée qui nous écoute, quoi. Oui, c'est pas la seule.
C'est sympa.
Christiane, Yann, en plus, on a notre directeur qui est derrière la vitre. Alors, je veux dire vraiment.
Non.
Ah, bah si. Bonjour, monsieur Bompard. C'est pas comme ça d'habitude, je vous rassure.
C'est pire.
Non, c'est promis, d'habitude.
Il commence à s'inquiéter, l'audience monte. Il vient voir pourquoi. Christiane contre Yann, voici la question du jour. Qui ne verra finalement pas Charlotte tout de suite?
Charlotte.
Voilà, Charlotte.
C'est en rapport avec l'Airbus. Oui. C'est l'Airbus qui a fini dans la rivière Hudson.
Et pourquoi?
Ah, c'est la ville de Charlotte.
Ils allaient pour Charlotte.
Ils allaient à Charlotte, les passagers de l'Airbus. Bonne réponse de Fabrice et vous. Et Christine, bravo à la Ils ont été beaucoup plus rapides que vous.
Mais Christine, elle avait la réponse, elle a eu la pression.
J'avais la réponse avant, moi.
Vous n'aviez pas retenu le nom de Charlotte, Christiane?
Non.
Eh oui, ils allaient tous pour Charlotte. Vous avez vu les images, j'imagine, à la télévision. Cet incroyable Airbus. 155 miraculés dans cet Airbus.
Oui.
Non, il est fort, le pilote, quand même. Ancien pilote de l'US Air Force.
Oui, bien sûr, normal.
Voilà, ce dont on ne parle pas suffisamment là-dedans, c'est bon, le miracle, tant mieux, bravo, il a réussi à amérir, donc, ou comment on dit dire? Parce qu'on est même amérir sur un, parce que c'est un fleuve.
Oui,
mais à fleurir.
Fleurir. Pas à fleurir.
Il a réussi à fleurir.
Qu'est-ce qu'il y a, Christine?
Il y a le patron.
Elle ne moufte plus depuis 2 minutes.
Ouais. Ça me coince.
Dites rien, vous avez pas reconnu, il croyait que je recevais Laurie.
C'est du putain, il y a Britney Spears sur UK, c'est énorme.
Elle a tellement rajeuni, c'est fou. en tout cas, non, c'est vrai, on parle beaucoup du miracle, mais dont on ne parle pas suffisamment. Moi, je trouve que ce sont les fameuses oies sauvages. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher les oiseaux
de faire cracher les avions? Oui,
continuer à faire du foie gras.
Du foie gras, tu sauveras des avions.
Faites pas chier avec les oies. Faire chier à dire, ouais, le foie gras, ça gave les oies. Ouais, mais au moins.
Gavons les oies. Et sauvons les avions.
Laurent. Les oies se vengent parce qu'elles gavent les réacteurs des avions.
Peut-être. Ouais, mais Laurent, le jour où vous arriverez à gaver une oie sauvage, vous me téléphonez.
Ah oui, j'avais pas pensé à ça.
Faut l'attraper d'abord.
Je domestique l'oie avant.
Voilà, d'accord.
Et après, je la gave.
Salut, l'oie. C'est sa technique de drague qui vient de t'expliquer.
Non mais sérieux, c'est vrai que ça donne des photos étonnantes, ah, hein, oui. On voit les passagers. Et salut, l'héroïsme du pilote, hein, qui en plus a fait deux fois l'avion. Bon, c'est pas non plus un avion de faire deux fois l'aller-retour dans l'avion pour voir s'il restait pas un seul passager. Qu'est-ce que vous dites tout seul à j'entends râler, c'est Yann qui râle comme ça?
Oui, on est abandonné là.
Il est triste.
Il fallait trouver la bonne réponse, mon grand.
Ah bah,
vite, vous avez un commentaire sur cet avion à faire, Yann?
Bah non, il faut être.
Bon, bah alors voilà, si vous n'avez pas de commentaire. C'est pour ça qu'on est fait, Christiane.
Ce que je voulais vous dire, quand même, moi, ça fait quand même 40 ans que j'écoute Europe 1.
40 ans que vous écoutez Europe 1. Waouh!
Une fidèle. Hein.
On n'était pas là, nous, il y a 40 ans quand même.
Non, je suis
bientôt fini.
Bah, il te reste à peu près 10 ans à l'écouter. Hein.
qu'est-ce que vous aimiez il y a 40 ans sur Europe 1?
Ah, Maryse.
Salut les copains. Ah, ouais. Ouais, salut les copains. Ouais. Julie.
Oui.
Philippe Alfonsi. Oui. Vous étiez là il y a 40 ans, Philippe?
Non, pas il y a 40 ans, mais il y a 30 ans. Ouais. Ouais. En revanche, Daniel dans le public, il y a 40 ans, elle est déjà là.
Christiane et Yann, on vous embrasse. Pardon, hein, vous n'avez pas trouvé Charlotte, qui était la destination effectivement de ces 155 passagers miraculés de l'Airbus A320.
Tu crois qu'il les rembourse?
Je crois que le directeur de la SNCF va faire un communiqué ce soir à la demande de Nicolas Sarkozy.
Et qui dit « on va gêner » sur Europe 1, dit forcément Laurent Ruquier.
Je reviens un instant sur le miracle de l'Airbus A320 qui a améri sur le fleuve Hudson à New York. C'est que le commandant a 67 ans. Peut-être qu'en fait, il voulait pas du tout amérir. Il s'est dit, moi, à mon âge, on s'en fout. Allez, on plonge.
Je vais tenter un truc.
Je vais finir un truc en beauté. Ouais, 67 ans, quand même. Non, mais moi, je pensais même pas qu'on pouvait encore piloter.
Moi, je pensais que ça s'arrêtait à 67 ans.
C'est l'Amérique.
Ce qui est dingue, c'est qu'il y a, c'est les bateaux de Circle Line qui ont été secourir les passagers. Vous savez, ces bateaux qui vont à la Statue de la Liberté.
Ouais, ouais.
Et ce qui est plus incroyable, c'est qu'il arrive à mérir et que ces bateaux de Circle Line soient pas dans son champ.
Oui,
parce que s'il avait éclaté un bateau, une barge, alors là, mais c'était, il y avait plus de probabilité quand même.
Non, en revanche, la vraie question que pose Christine, c'est est-ce qu'ils récupèrent leur bagage ou pas?
Mais oui.
Est-ce qu'ils récupèrent ta valise?
Parce que là, t'as fait les soldes à New York.
Ouais. T'imagines?
Ah, elle va recommencer, avec les soldes.
Tu veux rentrer à Charlotte dans ta province pourrie.
Oui, non, mais écoute-moi, tu as ta valise bourrée de pantalons à Abercrombie. Qui, quand même, tu as fait la queue comme un gros nage chez Abercrombie pendant des heures. Parce que tu faut faire la queue à l'extérieur du magasin. Donc, t'es content, tu rentres avec tes pantalons. Et ils sont dans la baie, dans l'Hudson, maintenant. Moi,
ils sont contents, ils sont saufs, ils vivent, quoi. Je veux dire, voilà.
Ouais, mais ils sont malades.
Ouais, mais quand même, t'as perdu tes pantalons à Abercrombie, quoi.
Oui, quand même.
Christine, elle va pas préférer crever, noyer pour récupérer ses pantalons. C'est, bon, tu veux rester jeune.
Christine, on peut, comment après, Christine s'est charriée par ses copines, quoi.
Christine, il faut choisir. C'est ta fille ou ta valise? Je prends les flingues.
Le commandant de bord, monsieur Ben Laden, explique en piquant
qu'il a loupé son coup.
Non, mais est-ce que vous savez une chose quand même que m'a raconté Christine quand même, c'est qu'elle a rêvé de ça la veille. Elle a rêvé la veille qu'un avion allait se crasher
oui,
en Amérique.
Voilà, et c'est ce que j'ai dit. Mais j'ai dit, c'est pas possible, je peux pas encore être visionnaire parce que c'est la troisième fois dans le mois. La première fois, vous vous souvenez, j'ai dit Pépito va mourir. Il était pas malade.
Dans les journaux le lendemain.
Ouais. Il était pas malade. Après une semaine, j'ai dit.
Il s'est pris dans un réacteur d'avion et le drame.
J'ai eu un autre problème familial et j'ai dit, je sens qu'il y a un truc terrible, il faut tout de suite hospitaliser cette personne. Personne ne m'a cru. Et là, hier, je dis à mes amis, écoutez, voilà, j'ai encore un flash, un avion va s'écraser en Amérique. Et
vous là, prévoyez donc... quoi pour demain?
Mais non, mais écoute, et alors, c'est incroyable, j'ai raconté ça tout à l'heure parce que mes amis m'ont dit, mais c'est incroyable. Moi, je pense que c'est qu'une coïncidence. Mais hier,
j'étais... Elle a quand même des doutes, elle est en train de nous dire, j'ai peut-être un pouvoir.
Mais j'ai vachement...
Non, mais tu as raison, elle s'est rassurée en disant simplement, j'avais rêvé que c'était un Boeing. Ah ouf,
c'est un Airbus.
Oui, je te jure. Parce qu'hier, je regarde la télé et je me dis, bon, il est 22h, la journée est finie. Et là, ma fille me dit, bah, pas en Amérique. Oh, je dis, merde, c'est vrai, la journée n'est pas finie en Amérique. J'allume CNN, je vois l'avion. Et là-dessus, Michel Aknap...
Tu pas fait quelque chose pour Le Havre?
Et tu sais si on va pécho ce week-end ou pas?
Non, mais attendez, je prédis pas. Enfin, je sais pas
si... Oui, des flashs,
tu prends combien, mettons, pour une consultation?
C'est une question pour Christine Bravo, maintenant.
Ouais.
Une mère a essayé de se faire passer pour sa fille de 15 ans. Dans quel but? Ça se passe dans le Wisconsin, aux
c'est
États-Unis.
C'est pour un examen.
Non.
Pour pas payer le tarif adulte.
Non.
Pour entrer au cinéma.
Pas pour entrer au cinéma.
Pour avoir une réduction quelque part.
Non.
Mais c'est pour faire plaisir à sa fille.
Non, pour se faire plaisir à elle.
Pour choper le mec de sa
Christine,
fille.
Comme Christine, pour choper voilà un petit jeune de 16
non.
ans.
Non, ou... non, non. Une maman s'est fait passer pour sa fille de 15 ans aux États-Unis, dans le Wisconsin, pour dans quel but?
Pour gagner un jeu.
Non.
Pour se faire avorter gratos.
Non.
Non, pour avoir une réduction.
Ah, combine.
C'est une réduction.
Pour échapper à une noix. Pour échapper
non,
à une noix.
Non, non, non.
C'est pas une réduction.
Non.
Ah, là, c'est
est-ce que c'est pas quelque chose qui était réservé aux enfants de 15 ans?
Normalement, oui.
Enfants
un manège.
Ah, non, pas un manège. À 15 ans, on va plus au manège.
Mais une attends, compétition de sport.
Pas une compétition de sport, mais il y a un lien avec le sport. Oui.
Pour coucher avec un pédophile.
Pour devenir pom-pom.
J'ai 15 ans.
Ça c'est drôle.
Ça, ça. Oh, les combines de Fabrice et Boué.
Ce mec est totalement tordu. Hein. Ah oui, là, vous vraiment. Rigolez, mais vérifiez. En fait, il est vraiment pervers.
Il va passer
et moi qui suis assise à côté tous les jours, je commence à vraiment flipper.
Ouais. Ça, c'est mais pas toi, non. Ça va, tu fais 16-17 ans, t'as rien à craindre.
Voilà. Qu'est-ce que les jeunes filles
non,
peuvent
pour
faire
devenir pom-pom girl.
Pour devenir pom-pom girl.
Oh, bravo.
Bonne réponse de Jérémy Michalak.
Et oui, c'est un rapport avec le sport.
Ouais. Wendy Brown est parvenue à suivre l'équipe des pom-pom girls de sa fille en se faisant passer pour sa fille. Ainsi, elle a reçu un casier de membres de l'équipe des pom-pom girls et a participé à une fête dans la piscine avec les autres élèves. Elle a été démasquée seulement plus tard
à la douche
par des professeurs. Et elle a été.
Est-ce qu'elle avait du poil?
Elle a été arrêtée. Voilà. Elle n'a pas été condamnée pour vol d'identité, mais placée dans un, quand même, dans un institut psychiatrique pour 3
oh
ans.
Oh là là.
Méfie-toi,
pour 3 ans.
Ça, ça arrive
elle,
vite. Hein.
Elle sera majeure en sortant.
C'est une belle histoire, quand même.
Tu dois le faire, ça, Christine. Bah, non, non,
attendez. Moi, j'ai une amie. Sa fille de 14 ans est enceinte. Donc, cette amie, elle pourrait très bien passer à 30 ans pour une pom-pom girl. Non? Ça vous...
Quel rapport avec la grossesse de cette
fille? Eh ben, quand tu as que 14 ans de, ben, elle-même avait accouché de, à 14 ans.
Ah, d'accord.
Ah,
alors,
oui, d'accord.
Ah oui, c'est une tradition familiale.
Oui, c'est.
C'est le même père, d'ailleurs.
Ça se passe en Autriche.
Ce soir, l'invité de Thierry Lecamp fera plaisir à Gérard Miller puisqu'il s'agit de Zaza Fournier. Et oui, la nouvelle idole de Gérard, Zaza Fournier, qui chante La vie à deux. C'est sa dernière chanson. Entre 23h et 1h du matin, elle sera en live sur Europe 1 chez Thierry Lecamp.
Et on va gêner continue sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier en ce vendredi. Philippe Alfonsi, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Isabelle Motreau et notre Jérémy Jojo Michalak.
Même du côté de Besançon, dans le Houdou, actuellement, il y a une profession au chômage technique à cause du grand froid. Quelle profession est au chômage technique à cause du grand froid?
Les pompes funèbres.
Les pompes funèbres, bonne réponse de Fabrice Eboué.
Ah, ça, c'est son domaine en même temps.
Ah, mais ça, hein. C'est les bébés courgeots, là.
Les fossoyeurs sont actuellement au chômage technique. En effet, pas d'inhumation possible. Les sols sont gelés en profondeur et ne permettent pas de creuser des trous dans les cimetières. Les cercueils des défunts sont donc placés dans des caveaux d'attente au sein des cimetières. C'était pas arrivé depuis quand même 1985, hein, cette situation. Quand le sol est glacé sur 10 ou 20 centimètres, on peut attaquer le sol au marteau piqueur. Cette année, le sol était gelé sur 70 ou 90 centimètres. Et là, le marteau piqueur n'atteint pas, évidemment. Ou alors, il faut pas être trop gros. C'est-à-dire, si vous... Pour enterrer à quelqu'un d'assez plat, ça marche. Il n'y a pas besoin de profondeur.
Non,
non c'est vrai. Michalak, vous l'enterrez facile.
Sans problème.
Une boîte à chaussures.
En hauteur, tu
peux m'enterrer debout.
Tu peux l'enterrer debout.
À la verticale.
Il y a la fameuse histoire, d'ailleurs, hein, comme ça, des histoires de Pierre Doris, des deux types qui conduisent le convoi funéraire et ça glisse, ils n'arrivent pas à arriver jusqu'au cimetière, enfin jusqu'au crématorium, exactement. Puis il y en a un des deux qui dit à l'autre, passe la vieille, on va cendrer. Vous ne connaissiez pas celle-là.
C'était Antoine Blondin qui avait toujours des jeux de mots formidables, et il était à l'enterrement d'un coureur cycliste qui n'était pas un coureur cycliste de grande catégorie, et donc ils sont derrière le cercueil, il y a une petite montée, et il y a un des potes de Blondin qui lui dit c'est bien la première fois qu'il est premier dans une côte, et Blondin répond surtout après crevaison.
C'est très beau. Benoît Hopka vient de publier un livre qui réunit 16 personnages de l'histoire de France. Parmi ces 16 personnages, on peut trouver monsieur René Maran, qui obtint le prix Goncourt en 1921. Quelle était la particularité de René Maran, point commun avec les 15 autres personnages du livre ?
Il était drôle ?
Non.
Oh là là.
Ah oui, monsieur René Maran.
Bah oui, enfin.
Ils ont un point commun, ces gens-là.
Ah oui. René Maran, prix Goncourt 1921.
On peut avoir d'autres 21. Noms.
Bah, si je vous donne les autres noms, vous allez tout de suite trouver, évidemment, le point commun des 16 personnages.
Mais ce n'est pas des prix Goncourt. C'est pas tous.
Non, ce ne sont pas tous des prix Goncourt.
Ce sont tous des écrivains?
Ce ne sont pas tous des écrivains. Il y en a d'autres, mais ce ne sont pas tous des écrivains.
C'est donc le sujet du livre qu'il avait écrit qui est leur point commun?
Exactement. Benoît Hopka, qu'on aura au téléphone dans un instant, a choisi de parler de ces 16 personnages.
Ils ont tous parlé de Marie-Antoinette?
Non.
Est-ce qu'ils ont tous parlé d'un même personnage?
Non,
ils ont tous vécu à la même époque?
Non, même pas.
Mais René Maran, c'était un roman qu'il a écrit, ou c'est un document, enfin un essai?
C'était un roman, je peux même vous donner le titre, ça s'appelait Batoila.
C'est genre d'une même famille?
D'une même famille, non.
Excusez-moi, quelle est la question, Laurent?
Qu'est-ce qui se passe, Tito? Vous vous réveillez un peu là?
Il a raison.
Non, je préfère être franche, j'ai un peu. Ouais. Oui,
un peu décroché.
Dites-moi tout, allez-y.
Allez-y, si vous voulez, il y a un monsieur qui a fait un livre. Qu'on
voilà,
aura au téléphone.
Bien. René Maran.
Non.
Benoît Hopkin.
Ok.
Un livre publié chez Calman Lévy. On l'a au téléphone dans un instant.
Très bien.
Il a choisi 16 personnages de notre histoire de France.
Voilà.
Parmi les 16, qui ont tous donc un point commun, se trouve René Maran, le prix Goncourt 1921.
Ils sont tous originaires du même endroit.
Ah, on se rapproche.
Ils sont tous
de la même religion.
De la même ethnie.
Non.
Ils sont morts au même endroit.
Ils sont tous africains.
Ils sont tous...
Tous noirs.
Ils sont tous noirs. Ah, oui. Bonne réponse de Fabrice Eboué.
J'ai dit africain d'abord.
Elle a dit... Non.
Je veux pas dire, mais j'ai bien aidé quand même.
Il y a des africains.
Voilà un beau sujet de livre. Ces noirs qui ont fait la France, du chevalier de Saint-Georges, là vous auriez trouvé dit le chevalier de Saint-Georges, à Aimé Césaire, encore plus évidemment, en passant par Gaston Monnerville, Félix Eboué, donc
Marius Trésor.
Et donc, je crois pas qu'il y ait Marius Trésor dedans. Bonjour Benoît Hopkin.
Bonjour.
Comment vous les avez choisis, les 16 personnalités de couleur, on va dire, qui ont participé à notre histoire?
J'ai essayé de choisir des gens qui venaient un petit peu, des périodes différentes, c'est-à-dire j'ai pris des grandes dates de l'histoire, et puis je me suis interrogé, est-ce qu'il y a des Noirs qui ont participé à ces grandes dates de l'histoire de France, et à ma grande surprise, à toutes les époques, j'ai trouvé des Noirs qui ont eu des rôles très importants, et qui pour beaucoup d'ailleurs avaient été oubliés ensuite, quoi. Et c'est pour ça que j'ai voulu rattraper cet oubli en écrivant ce livre.
Mais il y en avait quand même plus que 16, donc.
Alors évidemment, oui, il a fallu que je fasse d'énormes coupes, parce qu'il y avait des gens, à toutes les périodes, il y a eu beaucoup de gens qui ont eu des rôles très importants. Le choix était extrêmement difficile.
Alors Félix Eboué, on rappelle d'ailleurs en quatrième de couverture qu'il a été gouverneur du Tchad, parmi les premiers résistants à répondre à l'appel du général de Gaulle. Gaston Monnerville, président du Sénat, deuxième personnage donc de la République pendant plus de 20 ans, et c'était lui aussi un black. Edmond Albus, je ne connais pas Edmond Albus.
Oui, c'est un réunionnais, c'était un esclave, un jeune esclave qui avait une dizaine d'années, et il a découvert un principe de fécondation de la vanille, alors que tous les grands doctes savants cherchaient depuis des décennies comment féconder la vanille pour en faire la culture. Il a découvert ça tout seul, et évidemment, comme il était esclave, il était impensable que ce personnage ait pu découvrir cette nouvelle technique. Et donc, bien sûr, on a attribué la découverte à d'autres personnes.
Au 19e siècle, qui était François-Auguste Périnon, qui fait partie des 16?
Alors, François-Auguste Périnon est un personnage extrêmement intéressant. C'est le premier polytechnicien noir. C'est tout à fait étonnant, parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, on voit enfin apparaître des noirs dans les grandes écoles, alors que dès 1832, il était polytechnicien. Et il a également énormément participé à l'abolition de l'esclavage en 1848.
Quant à René Maran, qui évidemment a fait sécher mes chroniqueurs aujourd'hui, prix Goncourt en 1921, c'est vrai qu'il n'a pas laissé une grande marque dans la littérature, puisqu'on l'a oublié.
Oui, comme beaucoup de prix Goncourt d'ailleurs.
Oui, c'est vrai, qu'il soit noir ou blanc.
Exactement. Mais pourtant, c'était un personnage extrêmement intéressant, et bon, intéressant évidemment pour son œuvre, mais également intéressant pour son parcours intellectuel, parce que donc c'était un noir français, et il a beaucoup réfléchi à ce que ça voulait dire être noir en France.
Le Chevalier de Saint-Georges, rappelons-le, était compositeur à la cour de Louis XVI. Vous êtes arrêté à Gaston Monnerville, président du Sénat. Avec qui vous auriez pu prendre pour aller un peu plus loin que Gaston Monnerville dans les dernières années?
Il y avait Yannick Noah, Thierry Henry, Claude Makélélé, Teddy Riner, Tsonga, Gaël Monfils, Marie-Josée Pérec, Ladji Doucouré, et plein d'autres. Hein.
Vous voulez dire que depuis, ce sont des sportifs surtout.
Ah bah oui, donc ouais. Ça,
vous êtes d'accord avec ça, Benoît Hopkin?
C'est exactement ça le problème. Moi, j'essaie d'éviter sportifs ou danseurs ou danseuses parce que j'estimais qu'on était un petit peu dans les clichés sur ce qu'étaient les noirs. Moi, j'ai préféré choisir des comédiens, j'ai préféré choisir des écrivains, des hommes politiques qui ont eu des rôles extrêmement importants. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se poser la question, où sont les noirs dans la vie politique française? Et là, c'est un vrai débat de fond, alors que Barack Obama va être investi président des États-Unis.
Mardi prochain, c'est une belle idée de livre en tout cas, oui. Du Chevalier de Saint-Georges à Aimé Césaire chez Kalman Lévy. Ces noirs qui ont fait la France, c'est signé Benoît Hopkin.
C'est la suite d'On va gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier et ses acolytes.
Europe 1.
La question à deux balles.
La question à deux balles.
Parce que c'est la crise.
Le député de l'Aisne, député socialiste, monsieur René Dosière, a déclaré qu'il n'avait pas assez de sous-vêtements. Pas assez de sous-vêtements, pourquoi?
C'était une métaphore ou c'est un, y a un truc, c'est vraiment vrai?
Qu'est-ce que vous appelez une métaphore?
Bah,
la métaphore du slip, c'est un
une
truc très
façon
connu.
De, une façon de dire autre chose, quoi. Où il parle vraiment de sous-vêtements.
Ah, il parle vraiment de sous-vêtements, mais c'était une façon quand même de protester, de dire autre chose.
Donc,
nous n'avons pas
assez de sous-vêtements. Il devait peut-être partir pauvres, au festival du film d'humour à l'Alpe d'Huez. Il a pas assez de sous-vêtements pour la semaine.
Il y a un peu de ça, mais c'est pas pour partir. Il est député, ça devrait quand même vous aider. Mm-hmm. Qu'est-ce que vient de décider le gouvernement? D'obliger les députés à...
porter des caleçons?
Non.
On ne vient plus à la chambre.
À changer de slip de...
Mais non, enfin écoutez...
Ils n'étaient pas obligés, ils ne le faisaient pas. Ça, parfois, ils le gardaient 3 semaines.
Ils n'ont plus le droit d'aller aux toilettes pendant les sessions. Du coup, ils se font dessus. Souvent, ils n'ont pas assez de sous-vêtements.
Mais non, écoutez... Les débats à l'Assemblée, d'habitude, c'est de quel jour à quel jour?
Le mercredi.
Le mercredi, il y a des grosses sessions quand même.
Mercredi, jeudi, et le vendredi rentre dans leur...
Voilà, le vendredi rentre.
Il y aura le vendredi en plus maintenant.
Non,
ils veulent prolonger le week-end.
Même le week-end.
Le samedi en plus, voilà ce que propose le gouvernement désormais, c'est que les députés siègent et continuent à débattre, y compris le samedi. Si bien que, effectivement, ça leur fait un jour de plus. Voilà pourquoi le député socialiste de l'Aisne a dit, on n'a pas assez de sous-vêtements pour rester un jour de plus.
Tu vas me faire croire que les mecs, ils changent de slip.
Mais non, mais c'est une façon de parler. C'est l'expression.
Au Sénat, ils ont des couches en plus.
Ils n'ont pas assez de sous-vêtements. C'est une manière ironique de protester contre la décision du gouvernement d'obliger les députés à siéger le samedi pour poursuivre l'examen du texte sur la réforme du travail législatif. Il est vrai aussi que c'est un peu à cause de son camp, parce que ce sont les socialistes qui font traîner en longueur ce projet de loi. Il faut le dire, effectivement, ça fait un peu râler certains députés qui n'ont pas envie de rester le samedi en plus. Et c'est vrai que parfois, vous prévoyez, moi, quand je pars en vacances...
Le nombre pile.
Moi, j'en ai acheté 12, moi, un par mois. Titoff, vous en prenez un par jour aussi?
Moi, bien sûr, bien évidemment. Même parfois, je suis obligé même 2-3 par jour.
Pourquoi obligé?
Parce que
à cause de ses activités.
Bien sûr. Ça, c'est des vannes que je peux plus faire parce que je vais pas. Voilà. Je vais faire une vanne un peu de cul et puis finalement, du coup, je me suis rappelé quoi. Que ma femme écoute tout ça quoi. Donc en fait, non, oui, je change de caleçon tous les jours, comme toujours seul. Voilà.
Monsieur Dosière, qui appartient à la grosse commission de
la... À la grosse commission.
Oh, je déconne.
On l'a en ligne?
Mais non. Non, il fait les soldes. Un peu de musique sur Europe avec Stevie Wonder, Superstition.
Comment finir la semaine en beauté? Eh bien, en écoutant Laurent Ruquier.
Peut-être vous avez vu les images hier de l'enterrement de Claude Berry au cimetière de Bagneux dans les Hauts-de-Seine. Pouvez-vous me citer le nom d'une autre personnalité déjà enterrée dans ce même cimetière à Bagneux dans les Hauts-de-Seine?
Barbara.
Barbara, bonne réponse de Christine. Wow. Bravo. Waouh. Comment vous savez ça?
Bah, c'est un cimetière juif, notamment, je crois, où il est enterré, parce que je me demandais pourquoi à Bagneux, quoi. Je veux dire, vraiment,
c'est pas un cimetière juif. Il est enterré dans le carré juif du cimetière de Bagneux.
Le carré juif est vraiment très célèbre à Bagneux. Et je me demandais pourquoi aller à Bagneux, parce que, oh là là, remarque, tu me diras, t'es mort, tu t'en fous. Mais moi, je veux quand même aller au Montparnasse et je veux pas être à Bagneux. Alors, voilà,
place,
je le dis. Mais oui, j'ai réservé ma place. Le mec, j'ai appelé, il m'a dit, oh là là, j'ai une mauvaise nouvelle, mais bravo, il y a 20 ans d'attente. J'ai dit, mais j'attends! Attends, c'était terrible. Parce que je veux être enterré le plus près possible de Guy de Maupassant.
Oh, le pauvre Maupassant, la carrière qu'il a eue pour finir à côté de Christine Bravo, je sais pas.
Jean-Luc Petit-Renaud veut être à côté du guide Michelin, lui.
Voilà. Et donc, Bagneux, c'est vrai que c'est un peu...
C'est un peu en banlieue.
Ah, c'est un peu banlieue, ouais. C'est...
Une question d'actualité. Il a... Oh là là, il est âgé, hein. Il est né le 22 mai 1818. Et on en parle beaucoup dans la presse aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose qui change pour lui.
Il est très très âgé, même. Hein,
C'est une personne ?
Non, il est né le 22 mai 1818.
Ah, 1818.
Et il y a quelque chose qui change pour lui aujourd'hui.
Tout en Camus.
C'est une œuvre d'art. Tout
qui fait qu'on en parle.
Non, tout en Camus.
Une œuvre d'art en Camus en 1818.
C'est un lieu ?
Je pensais à un musée. Non,
c'est pas une œuvre d'art.
Non, 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 non. Il est né donc le 22 mai 1818.
C'est un arbre.
Il y a quelque chose qui change pour lui.
C'est un article de loi
qui fait qu'on en parle aujourd'hui.
C'est un article de loi ?
Non. C'est un arbre.
Non, tu c'est pas un arbre.
Bah, il pourrait perdre ses glands aujourd'hui. Tu veux,
vous êtes capable de me donner la date précise de la naissance d'un arbre au jour près, le 22 mai 1818.
Ah, j'avais pas entendu 22 mai. Un radar ?
Un radar.
Ah oui, un truc comme ça. C'est la naissance du radar.
En 1818, il y avait beaucoup de radars.
Il y avait beaucoup de radars, oui.
C'est verbalisé, à ton avis, ou le conducteur.
Mais pas un radar de vitesse.
Donc c'est pas un lieu, c'est pas un objet, c'est pas un article de loi.
C'est une invention. Ah bah, c'est ça pour ça que j'ai dit que c'était le radar. C'est le téléphone, le télégraphe,
la montre.
Non.
C'est pas une invention.
Oui, c'est une invention. C'est une invention en quelque sorte. Alors, c'est pas une invention. Comment dire ? C'est une création plus qu'une invention.
Un légume.
Non.
C'est une invention fonctionnelle, on s'en sert au quotidien.
Ah ben, je sais pas si vous en avez vous. Alors moi j'en ai pas. Je sais pas. Christine, c'est du genre à en avoir un.
Un sextoy ?
Un problème. Un problème.
Et là, on nous annonce, on nous annonce une petite baisse.
Le livret A.
Le livret A. Bonne réponse de Christine.
Mais bravo. J'en ai pas.
En 1818.
Le livret d'épargne est né le 22 mai 1818 avec la création de la Caisse d'épargne de Paris par Benjamin Delessert, un industriel et banquier. Effectivement, ça date de 1818, le livret A. Le livret A rapportera désormais 2,5% à partir du 1er février, une baisse d'un point et demi puisque c'était 4% jusqu'à maintenant. Évidemment, les détenteurs de livret A font un peu la gueule, mais ça reste au-dessus de l'inflation, 2,5%.
Ouais, arnaque quand même, parce que c'est les petits épargnants qui ont eu des livrets A. Écoute, la publicité, elle date de quand là ? On leur a dit allez mettre de l'argent, et un mois après on leur dit ça va baisser, ça va tomber à 2,5. C'est une énorme arnaque, enfin merde. Les gens ils gueulent pas pour ça ?
Si, si, ça, je vous rassure, ils gueulent.
Bon, parce que
mais ils ont pas tout un micro comme vous. Voilà.
Mais ah ouais, bravo, bah oui, alors, non, mais moi, je serais verte si j'en avais. Parce que moi, j'en ai pas, bien sûr. Avec quoi tu crois que je bouffe en ce moment? Avec toutes mes économies, j'ai plus un rond. Mais je vais te dire,
qu'est-ce que vous faites de l'argent que vous gagnez ici?
Arrête, eh ben, on va pleurer.
Tu sais combien ça coûte, un jeune? Parce que qu'est-ce que ça bouffe, hein, quand c'est jeune? Avant, j'invitais des vieux au resto.
Avant, vous n'aviez que votre fille à nourrir, bon.
Mais voilà, mais t'invites un vieux, bon, il a pas très faim, tu vois. En plus, il veut pas avoir un peu de billes supplémentaire, donc il fait un peu attention. Mais un jeune, dis donc,
au McDo,
il a pris un Viagra,
mais ça bouffe de tout, en plus.
C'est pour ça qu'il vient chez toi.
Hein. Des trucs
c'est
mieux chers. Pour toi, hein. Voilà ce que je fais de mon fric. Et puis une Rolex, disons que ça a augmenté.
Tu lui as acheté une Rolex? Il avait acheté une Rolex. Elle nous a dit qu'il était milliardaire il y a deux jours. En fait, elle est là, gigolo.
Pour qu'il accepte de coucher avec elle, faut au moins ça, hein, je vais te dire.
Ça y est, elle est avec Julien Drey, c'est officiel.
C'est ce que j'allais dire,
Europe 1, la question ultra difficile.
Même Michalak ne peut pas y répondre.
Ah, c'est une question qui concerne la maison d'été idéale, puisque le Parisien aujourd'hui, sous la plume d'Emeric Renou, nous montrait le croquis, on va dire le schéma de la maison rêvée idéale des Français. Attention, pour les vacances. Hein. On y voit un grand jardin, on y voit une piscine. C'est d'ailleurs évidemment un site internet de vacances entre particuliers, Homelydays, qui a fait cette enquête pour savoir ce que souhaitaient vraiment les Français pendant leurs vacances comme genre d'habitat. En regardant bien le croquis donné par Le Parisien, il y a quelque chose d'assez étonnant, non, mais d'assez cliché et d'assez classique, qui devrait vous faire râler autour de la table. Qu'est-ce qui est assez étonnant dans cette résidence estivale de vos rêves ?
Il y a un 4x4 dans le garage ?
Non.
Non, il doit y avoir
il y a un plongeoir sans piscine ?
Non.
Peut-être quelque chose de machiste ?
Oui.
Peut-être une buanderie, je ne sais pas, avec on voit la dame peut-être dedans en train de repasser, j'en sais rien, il y a peut-être quelque chose de ce genre-là.
Alors écoutez, je vais vous accorder la bonne réponse,
oh, la vache.
Parce qu'effectivement, sur ce croquis, il y a des petits personnages pour montrer, et on voit la dame qui est en train de faire la cuisine, dans la cuisine évidemment, pendant que le mari, lui, a la télécommande dans la main devant le téléviseur.
Non,
si je vous jure.
C'est ça les vacances.
Mais ils sont
les vacances
cinglés.
Idéales.
Les vacances idéales.
Bien sûr. Ouais.
Voilà.
Ils sont cinglés.
Ça n'a pas bougé, ça n'a pas changé. On est en 2008. La dame fait la cuisine, le mari a la télécommande dans la main.
Et c'est toi qui as vu ça tout seul?
Non, j'ai pas vu ça tout seul.
Parce que c'est génial, celui qui a vu ça.
Les vacances idéales,
il y a deux dames. Hein.
C'est les vacances idéales.
Ah, en fait, voilà.
Il y a deux dames.
Il y en a une qui fait la cuisine, l'autre qui baise. C'est normal. En même temps, est-ce que c'est pas le cas dans, pardon de dire ça, mais est-ce que c'est pas le cas dans la majorité des couples en vacances? Bah oui, c'est plutôt la dame qui prend le temps de faire la cuisine, peut-être qu'elle n'a pas forcément le temps de le faire dans l'année, et elle prépare des bons petits plats.
Ça lui fait plaisir. On parle de vacances, alors est-ce qu'on peut pas mettre la dame dans une chaise longue? Arrête un peu de te faire l'avocat du diable.
Mais s'ils avaient mis le mec dans la cuisine, on n'aurait pas compris que c'était la cuisine.
Allez, on se retrouve après le flash de 17h.
Laurent Ruquier.
On va se gêner, c'est la deuxième heure. Toujours avec Joujou, Boubounet, Christine Bravo, Titoff, Isabelle Motreau et Philippe Alfonsi. Joujou et Boubou.
Vous l'appelez Boubounet.
Boubounet. Je crois que c'est Claude Sarraute qui a commencé, qui a fait son retour cette semaine, Claude. Oui. Et c'est Claude aime bien donner des diminutifs.
Oui,
et voilà, et elle appelle Fabrice Eboué Boubounet. Voilà.
Oui, oui.
Pourquoi pas, ça lui va bien. Moi, je trouve il est mignon.
Et moi, je me sens moins seul, tu vois.
Donc c'est vrai.
c'est une sorte d'ours en plus qu'on a envie de prendre dans ses bras. C'est une sorte de panda.
Panda pourri. PPP.
Europe 1, on va se gêner.
Le challenge auditeur. Le moment que Julien Lepers nous envie.
Est-ce que vous avez un petit surnom? Est-ce que vous avez un petit surnom, vous, Cécile, à Versailles? Bonjour.
Ah, je sais pas, l'effrontée ou la rebelle ou quelque chose comme ça.
L'effrontée, la rebelle.
L'effrontée de Versailles.
Oh là là, la rebelle de Versailles, la sans-culotte de Versailles.
Ah, mais ça dérange, hein, oui.
Vous êtes mariée, Cécile?
Oui, un comptable.
Un comptable. Comment il vous appelle, votre mari, alors, dans la vie?
Je sais pas si je peux le dire vraiment à l'antenne.
Ah oui,
si, vous pouvez le dire. Au contraire.
Je sais pas, il s'appelle Souris, alors.
Souris? Oh, ma petite souris, c'est mignon.
C'est par rapport à quoi? Et vous avez vraiment la voix de Roselyne Bachelot, c'est juste pour nous faire chier?
C'est vrai, c'est pourquoi il vous appelle ma petite souris alors? C'est curieux.
Ah ben ça, j'en sais rien, moi j'appelle le gros chat, donc comme ça tout le monde s'entend.
Oh. Ah. On s'amuse à Versailles.
Et dites-moi, mais dans les moments intimes, quand vous faites l'amour, si vous n'êtes pas obligé de le dire, mais...
Est-ce que vous sortez de la litière?
Oui, c'est ça, oui.
Est-ce qu'il y a un autre, il vous appelle d'une autre manière que souris?
Non, c'est bon.
Bon. Jean-Luc, lui, est à Grigny dans le Rhône. Bonjour Jean-Luc.
Oui, bonjour Laurent, et puis bonjour à toute votre équipe. Hein. Je suis vraiment ravi de vous avoir au bout du fil.
Est-ce que vous avez un petit surnom, vous, Jean-Luc?
Oui, ça serait plutôt Coco.
Coco.
C'est un gros match, hein, Coco contre souris.
Coco contre souris.
C'est votre femme qui vous appelle Coco?
Non, c'est depuis tout petit, on m'appelle Coco. Peut-être que j'ai des beaux yeux, donc Coco bel oeil.
Et votre femme, elle vous appelle comment, elle, alors?
Coco.
Coco, c'est pas moi. Parce que vous êtes toujours appelé Coco, elle vous appelle Coco. Cécile, donc...
Dites Laurent.
Oui, Cécile.
Je voudrais dire toute mon amitié et mon admiration à Christine Bravo, que j'adore depuis toujours.
Oh, c'est mignon.
Elle est sympa, elle est magnifique, elle est dynamique, elle est rock'n'roll.
D'accord.
Elle est tout
la vanne
ce que
maintenant.
C'est vrai qu'elle est rock'n'roll, c'est le mot ça, rock'n'roll.
Elle est rock'n'roll, oui, elle dit ce qu'elle pense, elle dérange.
Bon, merci, je l'adore.
Oh, merci, vous êtes mignon.
Bah, oui, par contre, si je pouvais me permettre, je lui conseillerais de laisser tomber les body, les layettes, hein, et plutôt de s'orienter vers la production des couches culottes pour seniors, comme ça elle aurait plus de chances de rencontrer quelqu'un de son âge.
C'est fou, hein.
Là, Jean-Luc.
Oui, je me suis fait une amie.
C'est pas prudent ce que vous venez de faire.
Pourquoi?
C'est presque inconscient, Jean-Luc.
Juste avant la question, là.
Non, en même temps, je peux pas jouer contre Cécile.
C'est pas vrai.
Et je peux pas jouer contre Cécile. Parce que si je donnais la bonne réponse, je ferais perdre Cécile.
Ah, ouais. Mais oui, mais de toute façon, c'est le but du challenge, hein.
Bah, je vais continuer, là, avec Fabrice Eboué, alors.
Allez-y.
Alors, Fabrice Eboué, c'est les bouées de sauvetage d'Europe 1, hein. Même si son humour est parfois acide, je trouve que Fabrice Eboué, c'est un peu l'éboueur des mots, et il finit toujours par
reciter. Si vous avez été envoyé par Philippe Bouvard pour nous plomber l'audience, faut le dire tout de suite. Il est temps maintenant, quand même, de passer à la question, si vous le voulez bien. Souris contre Coco. Ça peut être rapide, hein, méfiez-vous. Ce que je propose, c'est peut-être que, quand même, les six chroniqueurs laissent, allez, 15 secondes aux deux auditeurs.
Il n'y a pas Michalak.
Il y a Joujou qui est là.
C'est pas vrai.
Ah, c'est pas vrai. De Michalak.
Michalak, lui, c'est un peu comme un Ravaillac. À chaque fois qu'une question est posée, il vous la plante dans le dos. Alors, c'est pour ça.
Alors, attention, là, voici la question. Quelle syllabe peut rapporter jusqu'à 120 millions d'euros si vous la multipliez par deux? Quelle syllabe peut valoir 120 millions d'euros si vous la doublez?
Caca.
Mi.
K.
Pourquoi?
Bah c'est le prix du joueur. Le prix du joueur,
donc,
caca, genre
donc
de foot.
Quelle syllabe?
La K.
K. K. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Eh oui, évidemment. Alors,
caca, c'est combien?
120 millions. Alors, K, c'est 60 millions d'euros. Si vous doublez, ça fait caca, 120 millions d'euros. C'est le prix accepté par l'AC Milan pour vendre leurs joueurs à Manchester City, puisque le Brésilien vaut 120 millions d'euros, l'offre la plus élevée jamais formulée pour un transfert. 120 millions d'euros pour caca. On a dans l'équipe aujourd'hui les 10 plus gros transferts de l'histoire du football. Il y a eu Zidane pour 75 millions d'euros. C'est de la Juventus au Real de Madrid, mais c'était il y a déjà 7 ans, hein, vous vous rendez compte. Et là, on a dépassé les 75 millions d'euros largement avec 120 millions d'euros pour caca.
Voilà. Eh ben, il va pouvoir prendre un livret A.
Vous ne le saviez pas, Cécile ou Jean-Luc?
Ah non, pas du tout. Non,
pas du tout.
Après Zidane, à votre avis, quel joueur a obtenu
Ronaldo?
Non.
C'était le joueur, comment il s'appelle, le Portugais?
Le Portugais Figo. Exactement, Figo du FC Barcelone au Real de Madrid. À chaque fois, quand même, hein, pour les deux plus gros transferts avant celui payé donc par Manchester City, à chaque fois, c'était pour le Real de Madrid. Hein, Figo de Barcelone au Real de Madrid.
Et Laurent?
Oui.
Je pourrais dire aller Sedan, parce que moi, je viens de Sedan. Je peux dire aller Sedan, c'est le brave équipe de Ligue 2.
Ah bah, dites aller Sedan.
Eh ben, les Sedan.
Ben voilà. On peut vous dire allez, au revoir.
Vous voulez pas dire allez, Grigny?
Non, mais je pourrais dire allez, l'OL, parce que le Lyon, finalement, est pas très loin de Grigny. Et puis, si je peux en profiter, je peux faire un gros bisou à mon épouse Fabienne et puis à mes enfants Jennifer et Valentin.
Ah bah, je crois que vous avez bien profité de l'antenne, Jean-Luc, aujourd'hui.
Ouais, hein,
vous avez d'autres choses à dire, ce sera coupé au montage, de toute façon.
Par contre, Fabrice Eboué, s'il venait sur Lyon, je serais ravi de le rencontrer, hein.
Bah oui, vous pourrez passer un peu la soirée à discuter, tout, ça va être sympa, j'ai l'impression.
Coco,
il a de la chance, Fabrice, hein, dis donc.
Coco et Souris, on vous embrasse.
Moi aussi, par contre, j'avais pas de contact avec Franck Dubosc.
Si j'ai un contact avec Franck Dubosc, oui, de temps en temps.
Je vais aller
tu as un papier, là? 06?
Ouais. Non, je vais aller le voir à la Bourse du Travail, et s'il y a moyen d'échanger quelque chose avec lui, ça serait bien.
D'échanger quoi?
Des paroles.
T'es sûr que t'as vraiment une femme, toi?
Merci Coco, merci Souris.
Profitez-en bien, jusqu'à 18h, c'est On va gêner avec Laurent Ruquier.
Les disparus de la semaine, on a parlé tout à l'heure, évidemment, de Claude Berry,
mais il va se rallumer, là.
D'autres personnalités...
Le nécrophile, quoi. Le baigneur, comme je les surnomme.
Nous ont quitté, Philippe Alfonsi.
Les nécrophiles, j'appelle ça toujours des baigneurs, moi.
Ah, pourquoi?
Parce qu'ils disent toujours, elle est froide, mais une fois que t'es dedans, elle est bonne.
Ah oui, c'est comme quand tu vas te baigner.
Mais Philippe Alfonsi, au moins, rend, lui, un dernier hommage à ses personnalités que parfois on n'a pas forcément bien connues et même dont le nom ne dit pas toujours quelque chose. Je pense, par exemple, à Ricardo Montalban. Ça vous dit rien, Ricardo Montalban? Bon, bah voilà, on en a vaguement et brièvement parlé cette semaine. C'était le comédien mort cette semaine à l'âge de 88 ans, connu pour ses rôles dans L'Île Fantastique ou dans Star Trek. Mais il y a par exemple aussi, là on en a un peu plus parlé, Georges Craven, le créateur des Césars.
Ou Michel Vianney, vous connaissez Michel? Michel Vianney,
réalisateur.
C'était un journaliste de l'Obs qui a réalisé des films policiers, complètement occulté par la mort de Berry, parce que c'est lui qui a tout écrasé. Ça a été le rouleau compresseur de la semaine. Bon, mais en effet, Craven, regardez, Craven, tout Paris saluait Monsieur Craven. Tout le cinéma adorait ce monsieur.
Lui est décédé à 94 ans.
94 ans. Oui. Il y a juste eu quelques petits coups de chapeau comme ça, discrets, etc. Pourtant, c'était un monsieur très important, Craven. Il a commencé. Vous savez comment il a commencé dans la vie? Il a commencé en faisant des claps dans un film de Fernandel. Bon, Craven, c'est le monsieur qui a inventé, bien évidemment, les Sept d'Or, les Molières, et surtout, bien évidemment, les Césars, qu'il a baptisé comme ça à cause du sculpteur qui a fait le trophée.
La compression,
ouais, et qui était à l'adaptation française, tout bêtement, des Oscars hollywoodiens. Bon, mais ce qu'on sait moins, en revanche, sur Monsieur Craven, une histoire invraisemblable, j'ai découvert, je ne le connaissais pas non plus. Figurez-vous que ce monsieur, qui en 73, en pleine guerre du Kippour, est en train d'organiser la sortie du film de Gérard Houry, Rabbi Jacob, eh bien, sa troisième épouse, piquée par on ne sait quelle mouche, prétend que ce film est antisémite pendant la guerre du Kippour.
Rabbi Jacob?
Oui, et va détourner un avion à Marseille, Marignane, un Boeing 727.
Non.
Ouais. Bon, ça aurait pu se terminer comme une farce un peu con, un peu etc. Ouais. Malheureusement, ça s'est faru tragiquement parce que le GIGN l'a tué. Mais oui, mais c'est un truc qu'on avait complètement
oublié. Le GIGN a tué l'épouse
de Georges Craven. Georges Craven a déposé plainte contre le gouvernement et il a été débouté.
Rabbi Jacob.
Ouais. Ah bah non, mais attends.
Et maintenant, Rabbi Jacob, elle va danser.
Non, mais attends.
Mais où est-ce que vous avez appris cette histoire
extraordinaire? En regardant un peu la vie de Monsieur Craven, c'est tout. Bon, ça je savais pas. Je savais plein de trucs sur lui, mais ça, je savais pas.
Alors, ça, c'est pour Georges Craven. Un mot aussi sur Patrick McGowan.
Patrick McGowan, alors ça c'est plus extraordinaire que ça soit passé un peu plus inaperçu, parce que Patrick McGowan, attendez, vous rappelez, c'est le numéro 6, c'est l'acteur principal, le réalisateur et le producteur de la série Le Prisonnier, enfin quoi, série culte des années 60, quoi. T'as pas vu ça?
Non, c'est pas ça, c'est que ce matin tu dis elle arrive avec une tête d'enterrement, t'as vu ce qui s'est passé pour McGowan? J'ai compris Magloire, moi.
J'ai demandé
Magloire, qu'est-ce qu'il a? Et tu m'as dit, mais non, c'est McGowan, je sais même pas qui c'est.
Bon, enfin, t'as bien vu la série Le Prisonnier, quand même.
Pas de là à faire des têtes d'enterrement.
Moi, j'adorais Le Prisonnier.
Ah bah si, ça a été un
17 épisodes, moi je les ai jamais vus non plus.
Bah voilà,
c'est pas vrai.
Non, jamais.
Alors, vous savez pourquoi vous l'avez peut-être pas vu?
Mais si, avec
parce que
la grosse boule.
La grosse boule, non, j'ai pas vu la grosse boule.
McGowan. Alors, je vous explique en quelques mots, parce que c'est lui qui a inventé ce truc-là. Hein. Ça a été tourné en 66. C'était donc un ancien espion anglais qui donne sa démission avec fracas et hop, tout d'un coup, endormi et transporté dans un village totalement adorable avec des maisons pastelles, etc. Et on a des numéros et où on est complètement. Alors, c'est tout à fait prémonitoire, parce qu'il y a des téléphones portables, il y a une musique imbécile et anesthésiante, il y a des élections truquées, il y a des caméras de surveillance partout, etc. Et vous pouvez pas sortir de là-dedans.
Mais on est heureux là-dedans.
Et ce monde parfait, avec tout le monde en canotier et avec des jolis costumes, etc.
Super,
ce monde parfait, vous êtes complètement enfermé là-dedans.
Ils sont drogués.
Et ce monde parfait, donc, est dénoncé par McLuhan et qui dit, moi, je ne veux pas être numéroté, je ne suis pas un numéro.
Je connais la phrase.
Voilà. Quand on veut s'évader de ce truc-là, on est poursuivi par une grosse boule qui s'appelle Aka. Et pour vous dire quand même que vous êtes un tout petit peu has-been, mon cher Laurent, en n'ayant pas vu cette série que tout le monde a vu, c'est que les jeunes du 9-3 aujourd'hui, les jeunes banlieusards, vous savez qu'ils ont donné le surnom de Aka à qui? À monsieur Hortefeu.
Voilà.
C'est Aka. Il s'appelle Aka. Donc, comme quoi, cette série a quand même été vue. Cela dit, en 68, elle a été diffusée par le RTF, et elle s'est arrêtée comme par hasard en mai, parce qu'elle a été jugée subversive. Bon, bien sûr, mais elle a été rediffusée.
Me raconte
après.
Pas, maintenant, j'ai qu'une envie, c'est de le voir.
C'est une série extraordinaire, c'est une série culte, magnifique, et qui a été inventée par cet acteur, producteur, réalisateur, qui nous a fait un petit peu réfléchir.
Et il réussit à s'évader ou pas, du coup?
Non.
Et qui est le numéro un? C'est surtout, c'est ça. Qui est le numéro un?
C'est la série où il a un tatouage pour s'évader, c'est ça?
Non, ça c'est Prison Break. Ha ha ha!
Prison Break. Bon, on l'a vu dans d'autres films, hein, que ça quand même, son film. Et notamment, c'était le roi dans Braveheart. Enfin, il a pris un certain nombre de grands rôles. Voilà.
Le nouvel album d'Anaïs est sorti il y a déjà quelques semaines, The Love Album. Elle sera demain soir, elle aussi, l'invitée de Thierry Lecan. Ce soir, je l'ai dit, c'est Zaza Fournier, mais demain, c'est Anaïs dans On connaît la musique, entre 23h et 1h du matin. Moi, j'adore cette chanteuse Anaïs, et son dernier album est particulièrement frais, nouveau, original. Et dans The Love Album, par exemple, vous pouvez entendre peut-être une angine.
Europe 1, on va se gêner.
Doremi Fassi, Liado.
Bonjour Serge.
Bonjour Laurent.
Ah,
bonjour.
C'est malin ce que vous avez fait cette semaine, puisque dans la catégorie sujet tabou, comme vous nous le proposez chaque vendredi, vous touchez cette semaine non pas à un sujet, mais à une personnalité tabou, Johnny Hallyday, l'idole intouchable. Et c'est vrai que les Fatal Picard cette semaine, avec leur chanson Le jour de la mort de Johnny, ont créé, on va dire, si ce n'est l'événement, mais la polémique. Mm-hmm. Et certes, certains journaux nous ont rappelé qu'ils n'étaient pas les premiers à s'attaquer à Johnny Hallyday. Et vous aussi, c'est votre sujet tabou du jour.
Exactement, oui. Si c'est une idole c'est sacré. Si c'est sacré, c'est donc tabou. Il y a eu en effet déjà Éric Lablanche qui a fait une chanson sur la mort de Johnny, mais lui, il était dans le présent, alors que les Fatal Picard sont dans le futur. Il y a eu aussi des canulars à propos de la mort de Johnny. Il a d'ailleurs réagi en chanson. Et puis, je vous ai fait un assortiment quoi de d'iconoclastes qui se sont attaqués à l'idole. Et puis aussi, quelques interviews de Johnny où on a quelques perles, un petit
sautillier. Mais je suis surpris parce que je ne vois pas dans votre liste la chanson d'Antoine, Les Élucubrations, où il mettait Johnny en cage à Medrano.
Oui, c'est vrai, parce qu'on l'a déjà passé plusieurs fois. Il y avait aussi...
Même, c'est un grand classique, vous auriez pu la mettre.
Certes, mais je crois que ça nous
aurait amené... C'est 10% en moins sur votre salaire, ça.
Mais ça aurait fait, à mon avis, 8 minutes de plus sur mon montage.
T'arrêtes de te plaindre de Liado tout le temps.
Liado, vous savez que vous êtes dans l'horaire qui progresse le plus en ce moment?
Ah, ça me fait plaisir.
C'est pour ça que je vous taquine.
Oui, bien sûr.
Parce que je sais que la rubrique fonctionne bien.
C'est surtout pour justifier le fait que vous ne m'augmentez toujours pas, hein.
Oui, mais nous augmentons les auditeurs.
Oui.
C'est on augmente ce qu'on peut, je crois. Augmenter tout le monde. C'est
ça, oui. Allez, Johnny Hallyday, l'idole intouchable, touché quand même à 15 reprises.
Qu'est-ce qui attire chez Johnny?
Ah, bah tout, hein.
Il est beau,
il est formidable.
Je vais enfin rejoindre la sphère de ce vrai chanteur populaire qui fait de la culture de masse à 650 francs la place. Pour provoquer la fortune, j'ai mis du plomb dans ma plume. L'autre soir, j'ai écrit une chanson pour Johnny.
Vous êtes très jeune, je crois.
Oui, j'ai 18 ans.
Vous avez 18 ans. Vous appelez Hallyday, c'est votre nom?
Hallyday, c'est mon vrai nom, oui.
C'est votre vrai nom. Vous êtes français?
Mon père est américain et ma mère est française.
Je suis fou comme une tomate. Je ne tiens pas sur mes pattes.
Quand on fait ce métier de chanteur, on acquiert beaucoup plus d'expérience en très peu de temps.
Faut pas dire du mal de Johnny. Johnny.
Tu te rends compte si on n'avait pas perdu 1h15? On serait là depuis 1h15.
Depuis le temps qu'il accapare les ondes, j'avais fini par croire que ce gars était immortel comme un genre d'organe officiel et qu'on était tous condamnés toute notre vie à l'écouter un peu comme en Corée du Nord. Sauf qu'aujourd'hui, Johnny est mort.
Ceux qui veulent m'enterrer, ben ils en sont pour leurs frais. Je crois qu'ils n'ont pas grand chose à faire dans la vie. Les gens qui lancent des canulars personnellement, c'est une chose qui ne me viendrait pas à l'idée.
Est-ce qu'il y aura des larmes dans les yeux d'Universal?
On sentira tous un petit peu belge, on sentira tous un petit peu triste, on sentira tous un petit peu suisse. Oh oui, le jour de la mort de Johnny.
Dans le cinéma, je trouve qu'il y a une ambiance formidable. C'est à peu près le même métier que d'être chanteur. La seule différence, c'est que dans le métier de chanteur, il y a beaucoup de... Tout le monde se tape un peu sur le dos, je pense. Et je pense que dans le cinéma, c'est le contraire.
Il paraît que l'on dernière nouvelle, je suis mort au moins 3 fois. Et je ne le savais pas.
J'essaye de vivre avec Jean-Philippe Spaeth et pas tout le temps avec Johnny Hallyday.
Le président, l'air solennel, décréta le deuil national.
Et si Johnny n'existait pas?
Ah ouais, ça serait pas plus mal, hein. Et ben, pourquoi j'existerais?
Ça c'est une interview sur France 3 à Lille où effectivement c'est assez terrible. Johnny, c'était pour la sortie du film avec Fabrice Luchini. Jean-Philippe, ouais. Johnny est ivre mort, quoi. Les choses comme elles sont.
J'ai été sympa, j'ai pas mis le passage le plus cruel.
Ah ouais, ça, on peut voir ça sur internet, je pense, et c'est assez rigolo pour ceux qui l'ont jamais vu. La chanson Flash, à propos de la discorde entre la France et les États-Unis, puisque les USA veulent tripler les taxes sur notre Roquefort. Et dans ces cas-là, le José Bové de la parodie, Serge Liado, réagit en nous disant que, ben voilà, nous on veut pas de leur bœuf aux hormones aux Américains et de leur poulet à l'eau de Javel, c'est bien ça?
Oui, et je vais vous chanter mon Roquefort, bien sûr.
Nous n'avons pas les mêmes valeurs.
Les éleveurs de millau en ont vraiment plein le dos, car Roquefort en Amérique va coûter un max à cause d'une taxe astronomique. Ils font ça pour se venger parce qu'on veut pas bouffer de leur bœuf aux hormones, pas plus que leur poulet, car il est désinfecté à la Javel, folklore américain. Car aux États-Unis, on proscrit les produits de nos brebis. Oui, mais il y a bien pis, nos exportations font tout le plongeon. Et même pour nos Airbus, ça tombe à l'eau, yeah.
Bravo Serge. Ah, j'ai encore le temps d'une petite question. Quelle est la particularité de la maison d'éducation de la Légion d'honneur à Saint-Denis en Seine-Saint-Denis? Quelle est la particularité de l'établissement public, la maison d'éducation de la Légion d'honneur à Saint-Denis en Seine-Saint-Denis?
Avec des filles?
Non, il n'y a pas que des filles, mais...
Ça sert à quoi cette maison?
C'est quoi la maison d'éducation de la Légion d'honneur?
C'est là où on met les jeunes filles de bonne famille, de militaires,
voilà.
Mais ce n'est pas une école privée pour autant, c'est une école publique, hein.
Ah bon?
La maison d'éducation de la Légion d'honneur à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis.
Elle a été créée par Napoléon?
Non.
Et les enfants de Joe Star?
C'est non. C'est une école publique, mais ils sont en uniforme.
Bonne réponse de Titoff. Ah, bon. Excellente réponse.
Il est étonné lui-même.
Et oui, il reste quelques écoles en France où les élèves portent tous le même uniforme. Bon, c'est le cas dans quelques écoles privées, évidemment, plus que dans les écoles publiques. Mais là, il s'agit justement d'un établissement public. Et il se trouve qu'on reparle, en tout cas Xavier Darcos, le ministre de l'Éducation, reparle de cette idée que les élèves puissent porter le même uniforme pour une plus grande mixité sociale, pour éviter qu'ils se battent pour des vêtements de marque. Alors, pour ou contre, le débat va être relancé. Et c'est vrai que, après tout, pourquoi pas, puisque dans certains pays, comme en Angleterre, la pratique est toujours courante. Au Mexique aussi, Christine?
En Jamaïque aussi.
Quand ma fille était scolarisée au Mexique, effectivement, t'as un uniforme par école.
Dans la tradition républicaine, c'est vrai, que l'école de Jules Ferry, de la République, ils étaient en blouse grise
ou noire. Nous, on avait
noir,
des blouses,
Parce qu'en effet, on voulait absolument unifier, qu'il n'y ait pas que, on voit pas que les gens
mais soient riches. Mais nous, on avait pauvres. Des blouses, mais, voilà, mais des blouses. Pas grises. Mais on choisissait la couleur de la blouse. Mmh. Et donc, on se tirait la bourre avec les blouses. Elle est moche, ta blouse. Donc,
ça ne changeait rien. Mais si. Parce qu'avant, je te dis, elles étaient grises ou noires. Donc, il n'y avait pas
à discuter. Mais là, monsieur Darcos a dit, ce ne serait pas un retour à la blouse grise, je cite le ministre, mais un t-shirt siglé qui signale l'appartenance à l'établissement.
Voilà. C'est un t-shirt.
Ouais. Ça éviterait, en tout cas, le fait tous les élèves aient la même tenue. Ça éviterait, effectivement, les disparités d'origine.
On tirait la bourre avec les chaussures et tout.
Quand tu vas chercher ton môme à l'école et que t'es bourré, tu le reconnais pas.
C'est lequel? Pour ou contre? Alors, Titoff, vous?
Franchement, je pense que c'est pas mal.
Vous qui allez bientôt être papa.
Oui.
Est-ce que vous seriez d'accord qu'on vous dise, voilà.
Tous en brave Hollywood.
Votre petit garçon doit porter une blouse. Ce sera un garçon.
Petite fille.
Ah, ce sera une petite fille?
Oui, une blouse. Non, moi je trouve que c'est vrai que si c'est l'école publique, ça va dans l'esprit de l'école publique, c'est-à-dire que bon, tout le monde est
pareil, on est tous égaux,
parité, et qu'il n'y ait pas de côté. Ah, lui, il a de l'argent, il n'a pas de l'argent. Le blouson, les chaussures.
Ouais. C'est en 68 que ça a disparu en France, l'uniforme à l'école, 1968.
Mais ça fonctionne pas comme ça parce que t'as les chaussures, le sac, la montre,
la voiture de ta mère que t'as
vient chercher. La voiture de ta mère qui vient de chercher, ta gueule d'arabe si t'as une gueule d'arabe. Tu vois, je veux dire, bien sûr que ça marchera toujours, ça.
Bon ben non, alors.
Ça, c'est drôle.
Après Michel Sardou, Je viens du Sud, nous parlerons du livre de la semaine. Je viens du Sud, Michel Sardou, qui sera demain soir sur le plateau d'On n'est pas couché. Je vous en parle parce qu'il était particulièrement drôle. Je crois même qu'on a rarement vu, voire même jamais vu Michel Sardou, comme vous allez le voir demain soir.
Drôle.
Ah mais vous pouvez même pas imaginer.
Il a peut-être bien alors, communiste, c'est wow,
moi, je peux très bien imaginer, parce qu'il y a deux ans, j'étais dans le jury de Miss France, et j'étais rentré en jet privé avec Sardou et Gérard Darmon, et je peux vous dire qu'il est très très drôle.
Ah ben, je peux même vous dire qu'il passe son brevet de pilote, il pourra bientôt piloter lui-même, s'il veut, n'importe quel avion, un Airbus, s'il veut, amerrir sur l'Hudson River. Ben, c'est sa marotte du moment.
Ce soir-là, c'était pas lui qui pilotait, heureusement, parce qu'on était tous bourrés en rentrant.
Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine.
Joseph Finder, le maître du business thriller. Powerplay, c'est le titre de ce nouveau roman, traduit évidemment pour nous en France, publié chez Albin Michel. Alors, par qui je commence? Peut-être par Isabelle Motreau, tiens, pour une fois.
Alors, d'accord. Alors, Powerplay, c'est une histoire, c'est un thriller, effectivement, c'est le maître du thriller. Et c'est vrai que c'est tous les codes du genre. Ce sont des businessmen qui se retrouvent dans un séminaire, dans un énorme chalet très chic au fin fond du Canada. Donc ce sont tous des gens de pouvoir, effectivement. Hein.
Ça veut dire quoi d'ailleurs, power play?
Bah, le jeu du pouvoir.
Le jeu du pouvoir.
Et donc on est là dans une société un peu comme Airbus, vous voyez, ou Boeing. C'est ils se disent les concurrents de Boeing, donc grosse entreprise. Et on sait déjà qu'il y a des petits soucis de trahison à l'intérieur de l'entreprise. Bon, ils se retrouvent là en séminaire et des chasseurs, croit-on au début, vont les prendre en otage. Déjà, c'est une situation assez dure, assez compliquée, parce que les chasseurs ont l'air de gros bourrins quand même, bien décidés à en découdre.
Des chasseurs.
Voilà, des chasseurs. et en plus, la situation va devenir de plus en plus dramatique, puisqu'il s'avère très vite que ce sont pas des chasseurs ordinaires, qui sont pas là par hasard, et que ce qu'ils veulent, c'est encore plus compliqué que juste récupérer les montres de ces messieurs-dames. Donc voilà.
Et c'est bien ou pas bien?
Eh ben, c'est bien. Moi, j'avoue que c'est pas du tout le genre de bouquin que je lis d'habitude.
Alors, je vais encore forcer à lire ça.
Voilà. Alors, mais c'est très bien, hein, parce qu'au début, je suis rentrée là-dedans à reculons, me dire oh là là. Hein. Et puis, en fait, c'est tout à fait le genre de bouquin qu'il faut lire quand vous êtes, vous êtes bloqué, vous êtes dans le train, vous êtes dans l'avion, ou c'est un après-midi. Un après-midi de pluie, tout ça. Vous
ça
plongez
fait passer
là-dedans
un bon moment.
Et ça fait passer un bon moment, voilà.
Christine, d'accord avec ça?
Oh là là, pas du tout. Alors, c'est ce que j'ai lu de plus nul depuis une éternité. C'est le genre de thriller entièrement écrit sous forme de dialogue, ou presque entièrement écrit sous forme de dialogue.
Ah non, pas du tout. Parce
qu'à chaque fois que je dis quelque chose, tu dis non, pas du tout.
Enfin, c'est
alors, écoute, s'il te plaît. Alors, c'est vous qui venez de dire non, pas du tout à elle, qui vient de dire que c'était bien, je vous signale.
Non, mais elle est. Non, ne dis pas ça, Laurent.
Isabelle vient de dire c'était bien, vous vous dites ah bah non, c'est un chier, j'ai jamais lu rien dans ce point, vous l'engueulez parce que.
Et donc, vous verrez qu'il y a très très peu de passages narratifs. C'est excessivement trop dialogué pour moi. Le style est absolument épouvantable. J'en ai pris au hasard, mais franchement, vous pouvez ouvrir n'importe où. Au cas où vous auriez faim, je suis sûre qu'on vous donnera de quoi aux cuisines. C'est ça tout le temps. C'est-à-dire, c'est écrit en petit nègre. Et alors, il y a un truc qui m'a fait mourir de rire.
C'est peut-être quoi la gueule de Fabrice.
Ben non, bah, attends,
je vais vous dire.
Calme-toi, Fabrice.
Et alors un truc,
non, c'est bien, c'est elle va se rattraper, elle va dire c'est de l'hébreu.
Non. Alors il y a un truc qui me fait mourir de rire. Il écrit gracias señor, muchas gracias. Donc ce qui veut dire
merci beaucoup monsieur.
Voilà, et la phrase après c'est mais vous parlez couramment l'espagnol, à observer chérie. Et alors si vous voulez, c'est truffé de trucs comme ça, et donc je conteste pas le fait que ma camarade ait beaucoup aimé, je dis que c'est extrêmement mal écrit et j'en ai marre de voir des best-sellers comme ça écrits avec des pelles à tarte.
Alfonsi.
Vous savez, il y a quelques années, il y a un rigolo qui avait mis au point un ordinateur dans lequel vous rentriez un certain nombre d'éléments pour écrire le scénario comme il fallait écrire. Et bien évidemment, tout ce qui est sorti de là était hyper merdique parce que vous mettez tous les éléments puis il y a un ordinateur qui tourne et voilà. Moi, j'ai eu l'impression de lire un livre d'ordinateur comme ça. Voilà. Bon, c'est-à-dire où il y avait en effet tous les trucs. truc et qui sortait dans l'ordre. Et en revanche, à ceci près que j'ai trouvé qu'avant qu'on arrive à l'action, nom de Dieu que c'était long et qu'on nous emmerdait avec les réceptions ci, les réceptions là et, de, et des gens
avec
de
le séminaire quoi.
Un peu, oh là là.
On n'est pas au séminaire tout de suite.
On est dans l'avion, on est au séminaire, on est au machin, on est bon. Et là, c'est vrai que
seulement à un moment donné, l'avion avait pu amerrir sur le Hudson River.
Voilà,
ah oui.
Bon. Et non, c'est vrai que moi, c'est pas un bouquin qui m'a plu. Ça, je le dis tout de suite. Hein, parce que je lui ai trouvé ce côté un peu mécanique d'une part, ce côté pas écrit parce que c'est vrai que ces gens de bouquins, on les lit pas pour la façon dont c'est écrit. C'est une espèce de caméra café pour VIP. C'est-à-dire que voilà, ils sont tous ensemble là, en train, non pas au caméra café, mais la machine à café, mais dans justement dans les
endroits. Ouais, c'est un séminaire d'entreprise, quoi.
Voilà, dans les séminaires. Et
un
puis
peu comme quand on va à Lille.
Ah non,
puis
c'est drôle.
Et puis ils se racontent. Ah non, non, ça n'a rien
ah
à voir.
Non, ça n'a rien à voir.
Et puis ils se racontent des histoires d'entreprise. Bon, voilà. Bon, avec les luttes de pouvoir, avec ceci et cela. Bon, c'est pas ma tasse de thé, quoi. Vous avez compris.
Joseph Finder a peut-être un style qui ne vous plaît pas, mais quand même, manifestement, il a le sens du suspense. C'est un thriller, business thriller, en quelque sorte, publié chez Albin Michel. Ça s'appelle Power Play.
Europe 1, on va se gêner.
Ciné.
Motro.
Pompon.
Bonjour Monique, le cinéma, les films sortis mercredi dernier.
Mais je ne suis plus Monique. Depuis mercredi matin, je suis un garçon indien qui gagne, après une enfance misérable, des millions de roupies. Je veux gagner des millions, version hindoue.
Ah, parce que vous avez adoré ce film, Slumdog Millionnaire. Ouais. Qui est tiré d'un
et
livre
la preuve,
d'ailleurs.
Hein. Attendez, la preuve, c'est que le garçon qui le joue à 18 ans s'appelle Dev Patel, P-A-T-E-L, comme moi, à une lettre près. Si c'est pas un signe.
Ah oui, vous c'est Pantel, lui c'est Patel. Ils sont trois garçons d'ailleurs à jouer le rôle, puisque on voit effectivement cette ce gagnant de qui veut gagner des millions en Inde à différents moments de sa vie, puisque il va justifier ses bonnes réponses alors qu'il est accusé de tricherie par chaque pan de sa vie qui l'ont amené jusque là. C'est bien ça?
Ce film, il brille comme une étoile dans le ciel du cinéma. C'est le seul vrai film de la semaine.
Le film de Danny Boyle, là, faut
Danny
dire.
Danny Boyle, Slumdog Millionnaire.
Qui avait fait Trainspotting, rappelons-le, pour ceux qui avaient adoré ce film culte. Isabelle.
Moi, je partage tout à fait l'avis de Monique. C'est un film vraiment qui est prenant, qui est émouvant, qui est très beau aussi, parce que bon, Danny Boyle s'est bien filmé, hein, ça on le savait déjà. Et vraiment, c'est
il paraît qu'il y a encore une histoire de chiottes, parce que dans Trainspotting, on se souvient évidemment de la fameuse scène aux toilettes.
Oui, oui, oui.
Là encore.
Alors, il y a quelque chose comme ça, oui.
Parce qu'il paraît qu'il a fait une fixette là-dessus, hein, Danny Boyle.
Bah, sans doute, oui, c'est vrai. Mais oui, vous allez.
Mais voilà, pour vous, c'est le film de la semaine.
Oui. Bon, ben évidemment, il n'y en a pas d'autres.
Slumdog Millionaire. Après, il y a le film avec Jean-Paul Belmondo. Un homme et son chien.
Oui, mais par respect pour la carrière de Belmondo, moi, je n'en dirai rien.
Ah bon, Isabelle?
Oui, alors moi, j'aimerais bien ne rien en dire non plus, si c'était possible.
C'est vrai?
Non, moi, j'ai pas du tout aimé ce film. Franchement.
Mais il est comment, Belmondo, dans
ce film? Eh ben, justement, Belmondo. Alors, Belmondo, il joue le rôle d'un homme très diminué, et qui va être de plus en plus diminué, d'ailleurs.
Le rôle était prévu pour Alain Delon, paraît-il, hein, au départ.
Non,
et
Alain Delon a refusé parce que comme il n'arrivait pas à se lécher les couilles, il s'est dit le chien va me piquer la vedette.
Donc voilà, le problème c'est qu'on voit effectivement que Belmondo est assez diminué, ça on peut
mais
pas...
le film il est diminué aussi.
Et voilà, et le film lui-même est assez diminué. Il y a un casting de la mort, quoi. C'est vraiment tout Paris, tous les acteurs du cinéma français sont là parce qu'ils ont tous voulu, j'imagine, partager cette aventure avec Belmondo en souvenir de Belmondo.
Mais il a pas dit Belmondo que il avait pas eu de droit de regard sur le montage et que il avait pu reçu un seul coup de fil après le tournage. Et
ah bon, il a dit ça?
Et ben, c'est une info que j'ai entendue hier chez Estelle Denis à 100% Mag.
Ça doit être vrai.
Ben, écoute, j'ai entendu ça hier.
On oublie un homme et son chien et on va parler du film de Patrice Lecomte, La guerre des Miss, avec Benoît Poulvorte.
Oh, mais décidément.
Oh, Patrice est un ami.
C'est pas agréable de dire du mal d'un voisin, copain.
Ah, bon.
Benoît Poulvorde en fait des caisses. Et les filles sont moches et mal habillées comme elles le sont plus du tout, même au fond de la cambrousse.
On oublie alors, Isabelle?
Oui, ben oublions-le, oui.
Alors, passons à Et après, un film avec Romain Duris et John Malkovich. Quand même, beau casting. Duris, Malkovich.
Ce film était un roman, il aurait dû le rester. Enfant, Nathan est rescapé de je sais pas quoi, et il est déclaré mort, et on sait pas pourquoi. Alors 20 ans après, il devient avocat, il est joué par Romain Duris, qui parle très bien anglais. Et un type très bizarre, bizarrement joué par le bizarre John Malkovich, vient lui dire qu'il devine le moment où les gens vont mourir. C'est franchement mortel.
Et d'ailleurs, ça marche pas très bien.
Hein. C'est vrai. Les gens sont pas concernés, je suis contente.
Est-ce que le film de Belmondo marche,
non.
Isabelle?
Pas très bien, non.
Qu'est-ce qui marche le mieux, c'est
Ce qui marche le mieux, c'est Cette vie.
Et suivi de près par Slumdog Millionaire.
Slumdog Millionaire est en troisième, mais ça marche bien.
En un, pour l'instant, c'est Cette vie, dont on n'a pas encore parlé, le film avec Will Smith, ça me paraît assez normal. Qu'est-ce que ça vaut?
Eh ben, je suis allée à l'avant-première, avec pour seule invitation mon panache blanc, je dis ça pour rigoler. Je suis entrée, sans être invitée, bon.
C'est vrai que c'est drôle.
Et puis, oui, c'est pas drôle du tout, mais c'est pour vous dire, il y avait Will Smith, c'est le seul bon moment, il a fait des plaisanteries, il est épatant, hein, dans la drôlerie. Il s'est moqué du metteur en scène italien Gabriele Muccino, dont on comprenait pas quand il dirigeait les Américains. Mais à part ça, on ne rit plus du tout. À partir de ce moment, quand le film commence, il est très gentil, Will Smith, dans le film. C'est un homme tellement gentil qui veut sauver cette vie, cette personne qu'il a blessée, d'après ce que j'ai compris.
Hein. Un peu trop bonne conscience, quoi, le film.
Voilà. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il leur donne des petits bouts de son corps. Ah. Il prévoit tout ça.
Cette vie avec Will Smith, c'est quand même le film qui est en tête en ce moment au box-office pour les films sortis cette semaine. Et le numéro 2, c'est quoi alors?
C'est Et après.
Alors,
je précise quand même que pour Cette vie, Hancock, qui était le film précédent avec Will Smith, avait fait le double d'entrée. Oui. Donc ça, c'est en tête techniquement, mais c'est pas une très bonne entrée pour lui.
Il y a encore un film dont on n'a pas parlé, c'est Les Insurgés, Monique.
Alors, si vous n'adorez pas Daniel Craig, le dernier James Bond, à la folie, ce film vous ennuiera. C'est pourtant l'histoire de Juifs qui se sont réfugiés en 1941 dans une forêt de Biélorussie et qui s'organisent et se protègent les uns les autres. Les frères Bielski, aujourd'hui des héros, ont sauvé ainsi plus de 1000 Juifs. Mais pourquoi avoir fait de cette histoire passionnante et exemplaire un film aussi plat?
C'est plat, Isabelle?
Oui, c'est vrai qu'on s'est un peu décevant, Craig. Oui. On se dit, ça va être un petit peu pétillant,
mais
pas du
tout. L'histoire est belle.
Oui, c'est vrai.
Et vous n'avez pas vu Park, le film avec Sergi Lopez et Jean-Marc Barr? Comment ça, non?
C'est une bonne semaine pour le cinéma, là, non?
C'est très bon, c'est très très bien. Je sais pas qui a dit ça, mais il est fine mouche, hein.
Oui. Si, quand même. Il y a Slumdog Millionnaire qui vous pouvez
génial,
aller voir.
C'est génial.
Parce que tout le monde dit que c'est un chef-d'œuvre. Alors, courez-y ce week-end. Il est en salle, Slumdog Millionnaire. Puis vous le ferez remonter au box-office.
Mais il monte quand même, hein. Il marche fort.
Manifestement, c'est un film qui le mérite. Merci, Monique! Allez, vite fait avant de partir, quelques coups de cœur au Théâtre Michel, par exemple, Réveillon d'été, une pièce jouée par Anne Richard, Françoise Lépine et Annick Blancheteau. Journal à quatre mains, le journal de Flora et Benoît Groux qui se joue au Théâtre de Poche. Vous avez aussi Avant l'Amérique avec Jérôme Pradon et Damien Roche qui se joue au Théâtre de l'Œuvre. C'est l'opéra de Sarah, une saga musicale en deux époques, écrite, mise en musique et réalisée par Alain Marcel. Avant l'Amérique, c'est la première époque. Et donc, c'est chanté au Théâtre de l'Œuvre. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Par exemple, Je me sens pas belle. Tiens, voilà. C'est à la Manufacture des Abbesses dans le 18e arrondissement de Paris. La Manufacture des Abbesses. Je me sens pas belle. Vous cherchez l'amour de votre vie. Conseil numéro 1. C'est Christine d'ailleurs qui donne souvent ce conseil. Couchez le premier soir. C'est une comédie de Bernard Jean-Jean.
Le premier soir.
Je me sens pas belle à la Manufacture des Abbesses. On vous souhaite de toute façon un bon week-end sur Europe 1. On vous retrouve lundi à 16h.
Évidemment, lundi 16h, le rendez-vous est pris. C'était Laurent Ruquier. Bon week-end. Retrouvez tout Europe 1 sur europe1.fr.